5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.
Nous voici une nouvelle fois sur les chemins de l'espace avec le groupe Orion, le groupe astronomie de la Haute-Loire. Et avec vous, Jean-Michel, bonjour.
Bonjour.
Donc, les chemins de l'espace, c'est le rendez-vous mensuel de l'actualité de la conquête spatiale, de l'espace et du ciel.
L'astronautique, comme on dit tout souvent, tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes.
Tout ce qui se passe au-dessus, et il s'en passe, des choses au-dessus de nos têtes. D'abord, commencer cette émission par, disons, par une mauvaise nouvelle, puisque après Armstrong et puis John Glenn qui nous ont quittés il n'y a pas très longtemps, c'est au tour du Last Man on the Moon, qui était Jen Eugène, d'ailleurs, c'est un nom très français, Eugène Cernan.
Tout à fait. Donc le 16 janvier, et donc un peu plus d'un mois après le décès de John Glenn, l'Amérique perd de nouveau un de ses célèbres astronautes, donc Eugène Cernan, plus souvent connu sous Jen Cernan, hein, donc qui est mort à l'âge de 82 ans.
82 ans. Donc encore une fois, on vit plutôt vieux lorsqu'on est astronaute. C'est...
En principe, oui, voilà. Ils vieillissent bien.
Voilà. Alors, ce Jen Cernan, c'était quand même un homme qui a marqué très, très fortement la conquête spatiale, puisque... C'est ça, c'était le dernier homme à avoir marché.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on le cite souvent comme « Last Man on the Moon », donc le dernier homme sur la Lune. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle « J'ai été le dernier homme sur la Lune ». Voilà, donc oui, depuis, il n'y a plus de pas humain sur notre satellite naturel.
Alors, un petit peu d'histoire sur la Lune. Il y a eu un certain nombre de, donc, d'hommes qui ont posé le pied, hein, sans parler de ceux qui ont tourné en les attendant. Il y en a eu combien qui
sont... 12. 12 hommes ont marché sur la Lune.
Donc, le premier, c'est Armstrong.
Armstrong, Aldrin et Collins, voilà. Ouais, hein, donc, Collins est resté en orbite, oui.
Oui. Et le dernier, donc, John Cernan. Sa mission, lui, c'était Apollo. Il a fait plusieurs missions.
17. Alors, il a fait aussi une mission. Il faut dire aussi, il a une particularité, que c'est le troisième homme qui est sorti dans l'espace, après Leonov et White. Donc, c'était au début de la, on va dire, les débuts de la conquête spatiale, oui, surtout de la conquête lunaire.
Hein. Oui, c'est vraiment un pionnier parmi les
pionniers. Ce sont des pionniers. Oui. Donc, ce sont les premiers hommes qui sont d'abord allés tourner autour de la Terre, sortir dans l'espace, et puis, bien sûr, aller tourner autour de la Lune, et puis après, aller se poser sur la Lune.
Donc à l'origine, c'est un militaire, c'est un vétéran
c'est donc pilote de chasse, pilote d'essai, donc puis sélectionné par la NASA.
Donc
puis,
de la marine américaine, l'école.
C'est l'école classique de l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait comme ça dans la sélection des astronautes de la NASA, mais dans la conquête lunaire, il fallait avoir fait ses preuves comme ça.
Voilà, donc troisième piéton de l'espace, dernier homme à avoir marché sur la Lune.
Oui.
Cernan vient de nous quitter. Un mot peut-être sur les missions Apollo. Donc il en a fait, lui, il a participé deux missions.
Oui, il a Apollo 10 d'ailleurs, il a tourné autour de la Lune. Et puis donc cet Apollo 17, donc il a été le dernier homme, on l'a dit, à poser le pied sur la Lune, accompagné du seul géologue du programme, Jacques Schmitt. Voilà, donc ils sont restés 73 heures sur le sol lunaire. Il a marché 22 heures, il a parcouru 37,7 km lors de trois sorties.
Donc Cernan, il a fait une première mission dans laquelle il a fait le tour de la Lune sans bien entendu se poser.
Voilà.
Il est revenu et il est reparti dans une autre mission. Donc c'est vraiment quelqu'un qui...
C'est un astronaute lunaire.
Hein. Un astronaute lunaire. Voilà.
Thank you.
Eh bien, dans l'actu du ciel, plusieurs lancements. D'abord, un lancement Soyouz, c'était le 10 janvier, je crois.
Alors, on lance Mars Soyouz, mais la particularité, lancé donc de Sinnamary, en Guyane. Donc, on rappelle que sur le sol de Guyane, nous avons trois lanceurs, la fusée Ariane 5.
Qui lance des masses des importantes.
La petite fusée Vega, qui lance des masses un petit peu plus légères. Et puis surtout, donc, Soyouz, avec la coopération franco-russe.
Entre les deux.
Voilà. Des fois, il y a une concurrence un petit peu entre Ariane 5 et Soyouz. Hein. Donc, après, là, on rentre dans tout le problème des charges, des poids, des tailles, des contrats commerciaux, pour qui, avec qui, dans quel objectif.
Alors, Jean-Michel, ce dernier lancement de Soyouz, c'était pour lancer quoi?
Alors, c'est ce qu'on appelle une plateforme de communication. Elle s'appelle Small Geo. Donc, elle a été lancée en orbite GTO, c'est-à-dire en orbite géostationnaire. Donc, c'est très, très loin, 36 000 km. Donc, elle pourra faire le tour de la Terre en 24 heures. Donc, bien surveiller la région choisie. Cette région choisie, c'est l'Europe, l'Amérique du Sud et les îles Canaries. Donc, 3 tonnes, hein, je le dis, c'est pour être plus flexible, plus polyvalent dans des communications, ce qu'on appelle la large bande. Donc, on est dans un domaine de la communication,
des télécoms,
des informations, parce qu'aujourd'hui, il y a les communications radio, les télévisions, les communications Internet qui prennent de plus en plus de place. Il faut de la place, hein, dans les bandes, voilà.
Bien, alors donc, toujours dans l'actualité du ciel, une coopération entre le CNES et les Indes, qui souligne effectivement l'émergence ou l'affirmation des Indes dans le monde spatial.
L'affirmation de l'Inde. Donc, il y a une coopération avec le CNES. Alors, on va s'apercevoir qu'à travers toutes les puissances spatiales actuellement, on est dans une recherche de la Lune. On a parlé tout à l'heure de Cernan, qui est le dernier homme sur la Lune. Lui, d'ailleurs, il regrettait qu'il n'y ait pas eu quelqu'un d'autre après lui. Donc, actuellement, objectif 2017 et la suite, que ce soit du côté de la Chine, du Japon, du CNES, tout le monde cherche un petit peu un regard sur la Lune. Alors, comment, avec, pourquoi, ce sera peut-être dans l'objectif d'envoyer des hommes de nouveau, mais aussi d'envoyer tout un tas de choses, des petits rovers, des missions d'exploitation, de recherche.
Alors, les Indes, malgré tout, sont là. Et il y a aussi ce projet de lancement d'un grand nombre de satellites prochainement.
Fin février, donc la date n'est pas tout à fait fixée, mais l'Inde projette un lancement record de 104 satellites.
Alors, ça, c'est quoi, 104 satellites?
On a parlé tout à l'heure de la plateforme Small Geo qui faisait 3 tonnes. Il n'est pas question de lancer 104 satellites de 3 tonnes.
Ils ressemblent à quoi, ces 104?
On a eu souvent parlé dans nos émissions de ce qu'on appelle les CubeSats.
Les CubeSats, oui.
Donc, ça va être beaucoup de petits satellites avec des clients de toute nationalité.
Alors, quand on dit petits satellites, c'est quoi?
La taille d'un CubeSat. Lorsqu'on paye d'un CubeSat, la taille, c'est d'abord standard, c'est 10 sur 10. 10 cm sur 10, voilà, c'est la base. Alors après, on va faire le plus gros, ça va être 10 par 20, et puis 10 par 30, et puis suivant s'il est plus rectangulaire. Alors il y en a qui sont aussi circulaires qu'on appelle les tubesat, hein, donc la forme d'un tube, mais on va les qualifier tous sur la base qu'on appelle les nanosat, à savoir les petits satellites.
Alors là, on est dans la grande tendance, on voit qu'on en a souvent parlé dans cette émission, l'on va de plus en plus vers des myriades de petits satellites.
C'est d'ailleurs le nom qui est appliqué, cette myriade, hein, il y a des myriades, oui. C'est vraiment tout à fait le nom qui est appliqué dans le spatial.
Et ce lancement s'est fait avec quel lanceur?
Alors, ce sont des fusées indiennes. Voilà, donc des fusées on va avoir une concurrence entre différents lanceurs, donc Ariane 5, Ariane 6, les fusées japonaises, on voit qu'aussi la Chine a développé une fusée qui est à peu près dans la même taille, dans les mêmes proportions pour lancer que la future Ariane 6.
Dans notre palette de 3 lanceurs, une petite, une moyenne et une grosse, en termes de masse, elle se situe où?
Alors après, c'est difficile.
C'est plutôt des petits lanceurs?
Ah, Ariane 6 ne sera pas un petit lanceur, donc les fusées aussi indiennes.
Je parle de la fusée indienne.
La fusée indienne, c'est un lanceur quand même de moyen, on va le classer, oui.
D'accord. Ouais.
Alors après, les noms de code, tout ça, donc il y a vraiment. Je ne connais pas particulièrement le nom des fusées indiennes. Les fusées chinoises, on les connaît, c'est tout des dérivés des CZ. Hein. Les fusées indiennes, ils ont plusieurs pas de tir, donc il faut surtout retenir que l'Inde est une puissance spatiale à prendre en compte qui se développe. l'Europe et qui cherche de la coopération et donc qui sera un acteur majeur du spatial dans ce 21e siècle.
Et donc c'est le cas avec le CNES sur cette coopération. Avant de parler un petit peu de l'actualité à bord de l'USS, on sait que notre ami Thomas Pesquet est très présent dans les médias.
Il tourne toujours.
Un mot sur ce qui va arriver, donc, en particulier sur la formation des prochains, des remplaçants de Thomas Pesquet.
Alors, les formations des prochains, donc il y a une nouvelle qui est tombée cette semaine, c'est le prochain astronaute sera un Allemand, il s'appelle Matthias Maurer. Il a été formé au départ dans les sélections de 2009, notamment avec Samantha Cristoforetti,
qui est déjà parti Thomas Pesquet, et revenu.
Qui est déjà parti et revenu. Voilà, donc cette promotion, donc le futur astronaute Matthias Maurer. Et là, de ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, Matthias Maurer a une importance particulière parce qu'il a beaucoup travaillé sur les programmes lunaires. Et voyez, on est dans ce sens-là.
D'accord. Donc, ça commence à se préciser un petit peu du côté de la Lune.
On s'aperçoit qu'on a tout à fait en ce moment la tête dans la Lune.
D'accord. Les prochains à partir, donc lui, il est sélectionné.
Il est sélectionné.
Mais sur les prochains départs, prochaines missions.
Alors les prochaines missions, donc effectivement, on va avoir les deux poids lourds, ce sont les Russes et les Américains. Hein, ça. Ensuite, les places qui sont réservées, ce sont aussi pour les Japonais, ce sont pour les Européens. Et par les Européens, avec une place toute particulière pour les astronautes de l'Asie. L'Asie, c'est pas l'Asie continent, hein, c'est l'Asie ASI, l'Agence spatiale italienne.
Avec un I comme Italie.
Voilà.
Alors, c'est pas la première fois qu'on souligne la forte participation des Italiens dans la recherche, dans le vol spatial aussi.
Surtout dans le vol habité.
Voilà. Comment on explique ça?
Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une coopération particulière entre l'Agence spatiale italienne et la NASA, où les Italiens dégagent des budgets plus importants que ceux qu'on peut développer au niveau de la France pour les vols habités. Donc, il y a toujours eu beaucoup plus d'Italiens que d'autres Européens qui sont partis dans l'espace.
Voilà. On rappelle d'ailleurs au passage que finalement, une place à bord de l'ISS, il faut acheter le billet, quoi.
Ça coûte très très cher. Et notamment, on a eu certains de nos ministres qui disaient que les vols habités coûtaient trop cher. Un exemple, on disait qu'un vol habité coûtait la construction d'un lycée.
Oui, donc on peut se poser la question.
Voilà, ça fait poser des questions. Alors après, on peut se dire, un lycée, ça sert. Est-ce qu'un vol habité sert autant qu'un lycée? C'est très difficile à répondre à cette question, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir.
Voilà, en tout cas, l'Italie fait ses choix.
L'Italie fait ses choix.
Dans la durée, parce que, que ce soit dans le monde aussi de la recherche, il n'y a pas que l'espace. Oui. L'Italie est assez
simplement
présente.
Pour vous dire, dans les astronautes actifs actuellement en France, on n'en a qu'un, c'est Thomas Pesquet. Et si on parle d'Italie, vous avez Samantha Cristoforetti,
qui vient de revenir.
Vous avez Paolo Nespoli, vous avez Luca Parmitano, donc vous voyez...
Le prochain à partir, donc un Italien.
Voilà.
Voilà, et ça reste toujours l'Europe, donc tout va très bien. Un autre sujet dans l'actualité, c'est des nouvelles de la sonde Cassini-Huygens.
Alors Cassini-Huygens, là on va remonter à 2004, hein, Saturne, Huygens qui se pose sur Titan, donc des images déjà à l'époque extraordinaires. Et puis effectivement, le temps passe et puis toutes ces sondes, elles arrivent en fin de vie. Alors actuellement, la sonde Cassini est en orbite autour de Saturne. Elle a renvoyé de très belles images où on voit donc cette sonde passer entre les anneaux de Saturne et photographier des petits satellites de Saturne qui sont très très nombreux.
Oui, cette mission a beaucoup produit.
Des données extraordinaires. Hein.
Oui. On est passé un peu vite sur Titan, mais il y a de grosses attentes sur Titan, qui est un satellite de...
C'est l'acte de méthane, ce qu'on a vu. Moi, je me souviens de l'atterrissage 2004, qui avait été vu en direct sur nos écrans d'ordinateur. C'était fabuleux, quoi. On voyait ces petits parachutes qui se décrochaient. Voilà, donc.
Donc cette sonde Cassini est en fin de mission, en fin de mission, vie. Voilà. Elle va finir comment ?
Certainement, elle va se cracher sur Saturne. Enfin, Saturne étant une planète gazeuse très légère, elle va fondre. Hein.
C'est très poétique pour un mariage.
Voilà.
Bien maintenant, comme chaque fois dans cette émission depuis quelques mois, depuis que Thomas Pesquet est parti en tout cas, nous essayons de faire un petit focus sur des expériences, souvent médicales, mais il n'y a pas que des expériences médicales, qui sont menées à bord, en particulier par Thomas. Donc la première, c'est une expérience qui porte sur le pilotage à distance. Alors c'est assez intéressant.
Alors...
Les
joysticks, tout le monde sait ce que c'est, puisque des joysticks, il y en a beaucoup qui en ont à la maison, sur leur console de jeu et tout. Les jeunes, les ados aujourd'hui sont très accros à tous ces jeux vidéo, avec leur petite manette là, derrière leur écran de télévision. Mais il faut savoir que lorsqu'on est dans l'espace, on n'a pas droit à l'erreur. Donc sur un écran de télévision, lorsqu'on fait un jeu et qu'on a un raté, si on fait une course automobile et puis qu'on va au fossé, il n'y a pas de conséquences. Lorsqu'on est dans l'espace, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors dans le laboratoire européen Columbus, donc l'astronaute de Thomas Pesquet a mis en place un joystick qui a été lié à un jumeau au cœur technique de l'ESA aux Pays-Bas. Donc chaque manette déplace l'autre et transmet avec précision la force, permettant à leurs opérateurs de se serrer les mains, de sentir pousser les uns avec les autres. Alors à quoi ça sert tout ça ? C'est pas pour faire du jeu vidéo, hein. C'est éventuellement quand on pense au rover qu'on peut mettre sur une autre planète, sur Mars ou ailleurs, c'est de pouvoir le contrôler avec une précision millimétrique. Hein, à la
Une des difficultés.
C'est pas des millimètres, ce sont des nanosecondes.
Une des difficultés, bien entendu, c'est la télécommande, la télétransmission, voilà. Mais il y a aussi ce délai entre la commande et l'effet, en tout cas, lorsqu'on est à plusieurs. Plusieurs minutes ou plusieurs heures ou plusieurs années.
14 lumière. Minutes pour Mars en moyenne.
Voilà, donc entre le moment où on agit sur la manette et le moment où ça fonctionne réellement à bord du vaisseau, il se passe effectivement 14 minutes.
Voilà.
Donc là, ça vise...
Plus les temps de réaction,
bien entendu.
Inhérent à l'être humain.
Voilà. Alors en fait, ces joysticks, pour les plus anciens, ce sont effectivement ces petits modules de commande avec lesquels on peut interagir sur un jeu vidéo. Hein. Voilà. Et donc... On parle de jumeaux aussi. Donc, ce jumeau qui est en Europe, en Hollande, je crois.
En Pays-Bas, c'est le récepteur.
C'est le récepteur, mais c'est plus que le récepteur. C'est en même temps, c'est un peu la double commande de l'auto-école, en quelque sorte.
Ça peut être la double commande, mais on voit comment ce jumeau, ce récepteur, réagit en temps réel aux signaux envoyés par Thomas Pesquet. Et donc là, on va essayer de calculer vraiment le plus précisément possible grâce à l'aide des calculs informatiques, grâce à l'aide des horloges atomiques, on en reparlera. Ouais. Voilà. Donc pour les missions futures et puis peut-être pour d'autres missions. Je pense aussi dans la station spatiale, vous avez le bras robotique qu'on appelle le Canadarm qui est commandé de cette façon-là. On peut revenir aussi
à Hubble qui avait été.
Je pense tout de suite à Jean-François Clairvoy qui a réparé le télescope Hubble donc à 686 km.
Qui était parti dans de bonnes conditions mais qui s'est trouvé un peu myope. Il a fallu intervenir.
Il a fallu l'attraper.
Oui.
Comment on peut l'attraper avec un espèce de bras robotique qui était à l'époque sur les navettes spatiales et donc Jean-François Clairvoy a eu cette charge. Donc à l'époque donc il y avait déjà de la précision mais vous voyez qu'avec les outils informatiques d'aujourd'hui. On essaye d'affiner vraiment au plus près ce genre de choses.
D'accord. Donc Thomas, régulièrement...
Voilà, fait ce genre d'expérience.
Fait ce genre d'expérience, participe à cette mission qui, une fois de plus, a été la précédée et lui succédera. C'est-à-dire que chaque
génération.
Astronaute reprend sa part. Alors, une deuxième expérience, alors là, puisqu'on parlait d'horloge et d'horloge atomique, justement, il y a un projet qu'on appelle le projet Pharao.
voilà.
Et qui porte effectivement sur les horloges atomiques. Alors,
Kazako, l'horloge atomique, ben, c'est une horloge, comme son nom l'indique, qui fonctionne à la nanoseconde. On parle de fois de milliardième de seconde, pour être très très précis. La transmission d'un signal doit se faire très très précisément. Bon, déjà nous, en tant qu'être humain, si on réagit à la seconde, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, dans ce monde de l'espace, il faut être l'exactitude des mesures. Alors l'objectif de Faro, c'est de tester la théorie de la relativité d'Einstein.
Voilà.
Elle fonctionne très bien à la nanoseconde, hein. Donc d'améliorer encore l'exactitude de nos mesures. Donc ces horloges atomiques, on en voit régulièrement dans les satellites. Je pense au programme Galileo. Le programme Galileo, donc qui est notre futur GPS européen, où on a pu, des semaines passées, voir qu'on avait ces horloges atomiques qui étaient tombées en panne. Alors actuellement, on en a 72 horloges atomiques, et il paraîtrait que d'après les sources ESA, qu'il y en a 9 qui sont en panne. Bon, vous voyez, on a de la marge. Alors, quand on lance un objet, on n'en lance pas qu'une horloge atomique, c'est bien contrôlé.
Sans rentrer dans la complexité, ce que j'entends, c'est qu'il n'y aurait pas de GPS, il n'y avait pas de maîtrise du temps d'horloges atomiques.
Exactement. Voilà. Le GPS est basé sur la relativité d'Einstein.
Voilà, donc on vérifie ces hypothèses, elles sont vérifiées,
oui.
Mais on affine effectivement la maîtrise de tout ça avec cette expérience Pharao. Thomas Pesquet maintenant. Thomas Pesquet, d'abord, son retour semble un peu compromis, en tout cas retardé.
Retardé, oui, puisque donc dans le prochain vol Soyouz prévu en mars, normalement il n'y aurait que 2 places d'astronautes parce que les Russes envisagent de réduire les coûts, donc et d'envoyer un peu moins de monde. Au lieu d'avoir 3 personnes, on n'en voit que 2.
D'accord. Donc,
donc ça risque de décaler un petit les futurs lancements. Donc ça serait retardé de quelques semaines peut-être. Mais on en court pas. Ça c'est une information qui a été donnée, mais
donc,
sans,
prévu
sans
en mai,
précision.
Ça pourrait être en
début
juin.
Voilà.
Très bien. Il nous envoie régulièrement de très belles photos de la Terre. Hein. On le voit s'entraîner et puis la Terre en dessous. Il a envoyé une photo qui a beaucoup plu, en particulier à nos amis corses, où on voit la Corse, hein, légèrement enneigée, magnifique.
C'est magnifique, hein. Voilà, très belle photo de la Corse. Donc, c'est vrai qu'en tant qu'astronaute européen, surtout français, il centre des fois son regard sur notre pays quand la station passe sur la France.
En tous les cas, il communique beaucoup et il a gagné très très fortement la sympathie, pas que des jeunes. Enfin, je pense
c'est devenu
vraiment quelqu'un qui compte dans le paysage. Puis alors, il fait une annonce là tout à fait intéressante et tout à fait belle. Ça concerne Petit Prince de Saint-Exupéry.
Alors, il propose aux jeunes donc de faire. Donc tout le monde connaît le Petit Prince de Saint-Exupéry avec sa visite sur les planètes. Et il propose donc de voir si le Petit Prince avait visité une 8e planète. Qu'est-ce qui serait passé? Donc il invite tous ceux qui ont envie. Alors il faut s'inscrire avant le 28 février d'imaginer sur une page le Petit Prince allant sur une autre planète. Qu'est-ce qui pourrait se passer puisque nous sommes aujourd'hui en 2017 et qu'on a toute cette conquête spatiale.
Voilà. Donc imaginez. Qu'il y a une 8e planète, à quoi elle ressemble, on connaît effectivement les unes et les autres, sur cette planète, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer, quel rêve, j'allais dire, nourrir. Alors ça concerne les enfants, les scolaires peut-être.
Oui, et les adolescents. Alors je n'ai pas la tranche d'âge exacte,
voilà.
Mais on va vous donner le site internet.
Voilà, hein. Par contre, c'est un appel à tous les enseignants, ou à toutes les mamans et les papas qui souhaiteraient entraîner leurs enfants, leurs fils ou leurs filles dans cette aventure.
Mais déjà d'écrire une belle page poétique.
Une belle page poétique, déjà rêver, déjà concevoir un petit peu les choses. Et puis, donc il faut une page maximum.
Voilà, donc vous avez tous les renseignements. Alors le site c'est www, bien sûr. Alors Mission Proxima, Mission Proxima en un seul mot.
Alors Proxima, Proxima.
Voilà.
Proxima.com.
.com/concours-écriture.
Apollo-écriture. Donc là, vous rentrez sur un site et on vous explique un petit peu...
Tout ce qu'il faut faire, voilà. Où envoyer votre texte, bien sûr par mail, hein, voilà.
Voilà. On attend beaucoup. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de retours quand même sur cet appel, qui est récent, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours. Hein,
Moi, j'ai eu l'information donc, par les oeils. Donc, c'est vrai qu'ils l'ont diffusé un peu plus largement cette semaine. J'ai vu, il y a bien... écoutez, au moment de Noël, parce que personnellement, je l'ai envoyé à ma petite fille.
Voilà, donc comment on vit sur cette 8e planète, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on respire, comment on marche, quel poids on pèse, etc. Donc il y a tout un tas de choses à creuser qui concernent bien entendu la science, mais aussi le rêve. Donc c'est tout à fait significatif qu'un pilote comme Thomas Pesquet, qui a dû se nourrir, comme beaucoup d'autres garçons ou filles d'ailleurs, des textes de Saint-Exupéry, eh bien, boucle la boucle en renvoyant...
Moi, je trouve que c'est une excellente idée, parce qu'il y a de la science, il y a de la poésie. Je crois que Thomas Pesquet, vraiment, on l'a dit souvent, c'est un grand communicateur et il apporte beaucoup de choses dans sa mission.
Voilà, donc
www.missionproxima.com/concours-écriture.
À vos stylos et à vos rêves.
5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Décollage.